Laudetur Jesus Christus.
Les jeunes ont besoin d'exemples de paix dans un monde fracturé par la violence, telle est l'exhortation du pape Léon XIV. Il recevait ce matin les 300 délégués d'associations et de mouvements engagés pour la paix. Parmi eux, un Israélien et un Palestinien, tous deux meurtris par le conflit en cours, mais vecteurs d'espérance, témoignage juste après les titres. Et Léon XIV a également reçu les membres du REPAM, un réseau catholique latino-américain et qui promeut les droits des personnes vivant en Amazonie. Le compte-rendu de cette audience à suivre. Élection présidentielle au coude à coude ce week-end en Pologne. Les deux candidats en lice tentent de séduire les électeurs de l'extrême droite, déterminant dans ce scrutin. Et puis au Mexique, c'est une élection inédite et controversée, celle des juges et des magistrats qui seront désignés directement par le vote populaire ce dimanche.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. 100% de la population de Gaza menacée de famine selon l'ONU. 900 camions d'aide ont été autorisés à rentrer dans l'enclave palestinienne, mais ils peinent à atteindre la population, freinés sur leur chemin par les bombardements, les blocages et l'insécurité qui règnent. À cela s'ajoutent les déclarations toujours plus transparentes du gouvernement israélien. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a assuré ce vendredi son intention de construire un État juif en Cisjordanie au lendemain de l'annonce de nouvelles colonies dans le territoire palestinien. Certains Israéliens haussent le ton contre cette occupation. C'est le cas de Maoz Inon. Il a grandi dans un petit kibboutz situé près de la bande de Gaza et où ses parents ont été assassinés par le Hamas le 7 octobre 2023. Pourtant, ce jeune Israélien prône la paix. On l'écoute.
Le peuple israélien, en raison des traumatismes du passé et de la façon dont il vit aujourd'hui, se préoccupe avant tout de sa sécurité, de sa sûreté. Il croit à tort qu'un mur peut défendre, que les bombes peuvent apporter de la tranquillité et que la guerre peut apporter la sécurité. Et mes parents sont la preuve que c'est faux. On ne peut jamais atteindre la sécurité uniquement par des moyens militaires et par la force. La maison de mes parents n'était qu'à 200 mètres du mur le plus sécurisé que l'humanité ait jamais construit et il ne les a pas défendus. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette politique de séparation et de ségrégation ne nous apportera jamais la sécurité. La sécurité ne peut être atteinte que par le dialogue, par une reconnaissance partagée, par des mesures diplomatiques. C'est le seul moyen de créer une paix durable. Nous, Israéliens, avons su y parvenir dans le passé avec nos plus grands ennemis, avec l'Égypte, avec la Jordanie. Et le peuple juif a même pu se réconcilier avec le peuple allemand qui, il y a seulement 80 ans, a exterminé 40% de notre peuple. L'humanité a prouvé tant de fois par le passé qu'elle pouvait surmonter la haine, l'injustice et la souffrance et s'élever vers une nouvelle réalité. Et c'est exactement la mission de notre génération.
Maoz Inon interviewé dans nos studios aux côtés de son ami Azoz Abou Sara, palestinien de Jérusalem, dont le frère a lui été assassiné lors de la première intifada. Tous deux avaient participé il y a un an exactement aux arènes de la paix à Vérone en présence du pape François. Ce matin, ils ont été reçus avec 300 délégués d'associations par le pape Léon XIV. Le nouveau souverain pontife les a remerciés pour leur engagement quotidien pour la paix. Un discours à retrouver en intégralité sur notre site internet vaticannews.va. À l'agenda du pape également ce vendredi, cette audience accordée au patriarche œcuménique de Constantinople, le patriarche Bartholomée. Celui-ci était cet après-midi à l'université pontificale Antonianum, tenue par les franciscains. Très engagé sur la question écologique et la protection de la maison commune, le patriarche a reçu un prix pour cet engagement, prix qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 800 ans du Cantique des Créatures Saint-François d'Assise. Eux sont également engagés pour l'environnement, les membres du REPAM, ce réseau catholique latino-américain qui promeut les droits et la dignité des personnes vivant en Amazonie. Ces derniers étaient accompagnés du directeur de l'action et du plaidoyer international au secours catholique Caritas France, qui les soutient depuis des décennies. Ils ont été donc reçus par le pape Léon XIV ce matin. Benoît-Xavier Loridon nous raconte comment s'est déroulé ce temps de partage.
On a laissé nos alliés partager leurs préoccupations sur les collégiens intégrales, sur les questions d'injustice, sur les questions de droit démocratique. Mais on a fait en sorte, après, de faire un peu une globalité de ces problèmes. Je leur partageais avec Sa Sainteté aujourd'hui sur des démocraties qui reculent, sur le problème qu'on a au Sahel, dans certains pays d'Asie, des leaders en Colombie qui sont assassinés chaque semaine. Voilà. Et quel message d'espoir ou quel accompagnement Sa Sainteté aujourd'hui peut nous apporter pour que les luttes deviennent aussi plus structurantes, qu'on ne soit pas que sur de l'anti, sur de la résilience, mais qu'on soit aussi sur une construction de paix. Et son écoute, elle a été totale, et il y a eu à peu près deux formes de réponses. Il y a eu ce côté « tout est lié », notamment lorsqu'on parlait un petit peu de la fragmentation des États aujourd'hui, des questions de migration, des questions écologiques, des questions d'appauvrissement, des droits démocratiques. Il disait, mais tout est lié. Donc à un moment donné, la résultante de ça, elle est politique. Et il y a un mandat qui est donné au pape lorsqu'il est élu sur ces questions politiques. Il est chef d'État, voire plus. Donc je pense qu'il a bien embrassé cette vision.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Présidentielle en Pologne ce dimanche, deux candidats s'opposent pour ce deuxième tour. D'une part, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, réputé libéral et pro-européen. De l'autre, le nationaliste et conservateur Karol Nawrocki. Cependant, c'est un autre individu qui a monopolisé l'attention durant l'entre-deux tours. Sławomir Medzen était le candidat du parti d'extrême droite. Il est arrivé troisième au premier tour, mais a recueilli la majorité des voix des jeunes Polonais. Et le report de ces voix pourrait faire basculer le scrutin, tant les candidats sont en coude à coude, la correspondance d'Adrien Sarla à Varsovie.
L'élimination de Sławomir Medzen dès le premier tour il y a deux semaines avait des airs de victoire. Le candidat réactionnaire a bien compris que le report des voix de ses électeurs pourrait bien décider de l'issue du second tour, mais il s'est bien gardé de leur donner une consigne de vote.
Les électeurs ne sont pas des sacs de patates. On ne les transfère pas d'un candidat à l'autre comme ça. C'est pourquoi j'invite les deux candidats du second tour à venir discuter sur ma chaîne YouTube.
Une invitation qui s'accompagnait d'une condition, s'engager à respecter 8 principes chers aux électeurs de Medzen une fois élu. Lors de son passage, Karol Nawrocki a signé la déclaration d'intention rappelant les similarités entre son programme et celui de son hôte, mais Rafał Trzaskowski, lui, s'y est refusé, s'opposant frontalement à la moitié des engagements proposés par le candidat malheureux du premier tour.
Mesdames, messieurs, comme vous le voyez, il y a plein de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Sławomir Medzen. Ma vision n'a pas changé, même si elle n'est pas du goût de tout le monde. Cependant, il y a des thèmes sur lesquels on peut arriver à un accord.
Souligner ses points communs avec l'extrême droite sans pour autant trahir son électorat libéral, l'exercice est périlleux mais nécessaire pour le maire de Varsovie s'il veut avoir une chance de l'emporter ce dimanche. Adrien Sarla, Varsovie. Radio Vatican.
Deux candidats qui ont des visions bien différentes sur l'Ukraine. Depuis Singapour, Emmanuel Macron a exhorté les Occidentaux à ne pas abandonner ni l'Ukraine ni Gaza. Et le président français a appelé Pékin à empêcher la Corée du Nord à déployer ses militaires sur le sol européen aux côtés de la Russie. On part de l'autre côté du Pacifique. Désormais, direction le Mexique. Des élections judiciaires se déroulent ce dimanche. Ce sont les premières dans l'histoire moderne du pays. Elles sont censées endiguer la corruption, mais font craindre pour l'équilibre de la démocratie à Mexico. Diego Calmar.
C'est un scrutin inédit pour le Mexique. Ce dimanche, 100 millions de citoyens sont appelés à voter pour renouveler plus de 800 postes de fonctionnaires de justice, ainsi que 9 ministres de la Cour suprême, la plus haute instance du pouvoir judiciaire. Ce scrutin avait été souhaité par l'ancien président de gauche, Andrés Manuel López Obrador, qui a pu faire passer une réforme très contestée en 2024. Selon son parti, la corruption explique le fait que la justice soit obstruée et expliquerait l'impunité qui atteint 96% des délits. Les observateurs de leur côté dénoncent une élection mal organisée, biaisée. La majorité au Parlement ainsi que les 80% de popularité de la présidente Claudia Sheinbaum permettraient au parti présidentiel de promouvoir des candidats issus de son cercle d'influence. Le flou qui entoure ce scrutin risque également d'ouvrir la voie à des centres d'influence. Parmi les candidats, on trouve notamment d'anciens fonctionnaires corrompus ou des proches de politiciens condamnés par la justice. Selon les ONG, pour améliorer la justice, il aurait fallu donner plus de moyens à celle-ci, ainsi que réformer les ministères publics facilement corruptibles. Elles alertent donc sur le risque que la justice ne soit plus un contre-pouvoir. À Mexico, Diego Calmar pour Radio Vatican.
Et puis on termine ce journal à Rome où a débuté ce vendredi le jubilé des familles, des enfants, des grands-parents et des personnes âgées. 60 000 fidèles provenant de 120 pays de tous les continents sont attendus. Plus d'informations à retrouver bien sûr sur notre site internet vaticannews.va. C'est la fin donc de ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. Les journaux reviennent lundi à 8h30, heure de Rome. D'ici là, beau week-end à toutes et à tous.